Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration.
Ce trimestre, nous parlons du modèle social français avec une émission sur la réforme des rythmes scolaires mis en place par le gouvernement en septembre 2013. Alors comment se passe la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur la rive droite? C'est le thème de cette émission. Vous entendrez Bernard Rivaille, maire adjoint à la ville de Lormont, Monsieur Claude Touzeau, président des Francas Gironde. Très bonne écoute sur Eau de Radio.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois notre question d'actualité soumise au cadre média. Et aujourd'hui, il s'agit de la question des rythmes scolaires, évidemment, qui anime le débat sur l'école. Mais j'ai envie de dire depuis de longues années. Effectivement, ce débat a pris une nouvelle ampleur suite à la réforme 2008 et du ministre Darcos qui avait institué la semaine de 4 jours dans l'enseignement du premier degré et réduit la semaine scolaire de 2 heures sans compensation. Cette réforme, à l'époque, avait été très contestée. Une conférence nationale sur le rythme scolaire fut mise en place dès 2010. Son rapport final, d'ailleurs, proposait la refonte de la semaine scolaire, abandon de la semaine de 4 jours au profit d'une semaine d'au moins 9 demi-journées, mais aussi de l'année scolaire avec un raccourcissement des vacances d'été. Et dès l'été 2012, le nouveau gouvernement lance une concertation pour la refondation de l'école de la République. Et le rapport issu de cette concertation propose également un retour à une semaine de 9 demi-journées. Il envisage également la possibilité d'allonger d'une à deux semaines l'année scolaire. Alors le décret relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a été publié au journal officiel le 26 janvier 2013 et il prévoyait la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées. C'est la fin de la semaine de 4 jours. En principe, il y a classe le mercredi matin, mais les dérogations peuvent être accordées pour remplacer le mercredi par le samedi matin dans le cadre d'un projet éducatif territorial. La journée de classe est allégée, elle ne doit pas excéder 5h30 et la pause méridienne ne peut pas être inférieure à 1h30. Ce sont les communes, collectivités en charge de la gestion des écoles maternelles et des écoles primaires qui sont chargées d'appliquer la réforme. Celle-ci a notamment un fort impact sur le temps périscolaire. La réforme entre en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2013, ou plutôt est rentrée en rigueur, mais les communes ont pu demander à reporter son application à la rentrée 2014. Par ailleurs, la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République crée un fonds d'amorçage en faveur des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de mettre en œuvre la réforme dès cette rentrée, c'est-à-dire la rentrée 2013. Aujourd'hui, alors que la réforme des rythmes scolaires implantée depuis un peu plus d'un mois dans certaines communes connaît ses premiers ratés, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a déclaré ces derniers jours son application à l'ensemble des écoles dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire la rentrée 2014, même s'il faut, reconnaît-il, des aménagements. Cette réforme des rythmes scolaires qui acte le retour, on vous le disait, à la semaine des 4 jours, et demi dans le primaire, dégage ainsi 3 heures d'activités extrascolaires, souvent à la charge des communes, et a concerné à la rentrée environ 22% des élèves du public et 17% des communes, soit environ 4000 communes en France. Les autres devront l'adopter évidemment en septembre 2014, ce qui fait qu'aujourd'hui à peu près un enfant sur 4 est concerné par la réforme depuis la rentrée 2013. Et voilà qu'à l'approche des municipales, la réforme sert de tremplin aux critiques politiques des uns et des autres, et en particulier l'opposition qui, tout en évitant d'expliquer sa proposition sur l'école ou sur l'éducation, a bien compris finalement que cette réforme était bien des acteurs dans l'embarras ou dans l'incompréhension, et notamment les parents, les enseignants, les élus, les associations ou encore les enfants. Alors le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, s'attaque à ce dossier épineux de la réforme des rythmes scolaires, préconisant maintenant ce fameux retour à la semaine des 4 jours et demi et la réduction des vacances d'été à 6 semaines après 2015. Vincent Peillon doit faire face aujourd'hui à plusieurs fronts, on l'a bien compris, et celui des manœuvres des opposants politiques, l'opposition de nombreux syndicats dans l'éducation et celle d'une partie des enseignants et pour finir évidemment la grogne des parents d'élèves. Alors en effet, cette réforme considérée par beaucoup à la fois comme nécessaire, fondée et bénéfique pour les enfants n'empêche pas les critiques sur évidemment des incohérences ou une organisation parfois approximative, une improvisation quelquefois surprenante. Les critiques viennent souvent des mêmes personnes qui s'opposaient à la réforme du ministre Darcos, généralement organisant la semaine de 4 jours. Du coup, cette approche volontariste de ce ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, visant, on le rappelle, plus d'enseignants que de classes, visant la formation des nouveaux enseignants, mais aussi le recrutement avec des emplois d'enseignants ou encore des recrutements de personnel de vie scolaire, sans oublier la refonte des programmes scolaires avec la création du Conseil supérieur des programmes, cet ensemble de la réforme passe plutôt inaperçu dans la clameur des mécontentements sur l'aménagement des rythmes scolaires avec les temps périscolaires. Rappel, donc ce Conseil supérieur des programmes a été institué aujourd'hui, ce jeudi, et pourtant, comme le dit le ministre, ce Conseil supérieur des programmes est le véritable cœur du réacteur de la refondation de l'école et il est historiquement tout à fait inédit. Alors, justement, qu'en est-il de la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires sur notre rive droite? C'est justement à l'exemple des quatre communes, par exemple, du GIP-GPV, Bassin-Senon, Florac-Lormont, qui ont mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013. Alors, qu'en est-il de cette réforme? Mais c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette émission 4 médias. Alors, émission 4 médias en collaboration avec Aki.fr, avec Joël Aubert. Bonsoir, Joël Aubert.
Bonsoir.
Alors, émission 4 médias en collaboration avec l'Écho des collines. Bonsoir, Paul-Michel Borgne.
Bonsoir.
Et pour finir, émission 4 médias en collaboration avec Le Courrier de Gironde, avec Hugo Hamès. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir.
Voilà, nous avons invité, justement, pour donner la parole aux acteurs qui mettent, justement, en œuvre cette réforme des rythmes scolaires. Nous avons donné la parole à Bernard Rivaillé, maire adjoint de la ville de Lormont. Bonsoir, Bernard Rivaillé.
Bonsoir.
Nous avons aussi donné la parole à monsieur Claude Touzeau, président des Francas. Bonsoir, Claude Touzeau.
Bonsoir.
Et nous donnerons la parole aussi à un ancien enseignant, qu'évidemment les auditeurs et les auditrices de Radio connaissent bien. Il s'agit de Jacques Brunet. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir.
Voilà, nous avions aussi invité la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, et malheureusement, à cause des mobilisations, justement, par rapport à cette réforme des rythmes scolaires, ne peuvent pas se rendre disponibles sur ce créneau. Nous le regrettons, nous aurions souhaité leur donner la parole, mais ici ou là, on pourra restituer leur parole avec les différents témoignages autour de ce plateau. Alors, j'ai peut-être envie de démarrer cette émission par un rappel de ce qui s'est déroulé, c'était le 12 avril 2013 à l'espace culturel du Bois Fleuri, place du 8 mai 1945 à Lormont. C'était les assises régionales de l'éducation partagée en Aquitaine sur fond de réforme de refondation de l'école. Alors ces assises portées par le réseau français des villes éducatrices, dont fait partie évidemment Lormont, mais aussi Bassin, Sartigues et de nombreuses villes de la CUP comme Eysines, Bruges ou encore Saint-Médard-en-Jalles, Pessac, voilà, avaient été co-organisées avec justement les Francas, monsieur Touzeau ici présent, la Ligue de l'enseignement, l'ANDEV. Et justement, l'objectif de ces assises était d'accompagner les collectivités territoriales et tous les acteurs de l'éducation de la région Aquitaine dans la mise en œuvre de cette loi concernant la refondation de l'école de la République et aussi de sensibiliser, outiller les communes, les intercommunalités, les acteurs éducatifs des territoires. Il s'agissait également de confronter, mutualiser les expériences et de se pencher sur le contenu de différents temps, c'est le sac dont il est question, différents temps de l'enfant, à savoir éducation artistique, culturelle, éducation physique, sportive, environnementale, scientifique et technique. Voilà. Alors peut-être avec vous, monsieur Rivaillé, adjoint à la mairie de Lormont, voir avec vous, finalement, repartant de ces travaux et de ces échanges, ces transferts d'expérience, cette sensibilisation sur la refondation de l'école, revenir avec vous sur le bien fondé de cette réforme, parce qu'il a fallu qu'il y ait un choix politique, certainement, à Lormont, pour dire justement, on met la priorité sur l'éducation, on sait que les enfants ont besoin d'un autre rythme, et on va passer tout de suite, dès la rentrée 2013, à cette réforme, et revenir évidemment sur la mise en place dans votre commune. Oui, à la fois le bien fondé, les résultats de ces assises et la mise en œuvre.
Ben, pour décider de partir, il faut à mon avis deux éléments. Il y a une philosophie sur laquelle on se base et il y a un choix politique. Alors la philosophie, Lormont est depuis maintenant 13 ans adhérent au réseau français des villes éducatrices. Lormont a un contrat local d'éducation partagée, que l'on appelait le projet éducatif local ou le contrat éducatif local, que le ministre a transformé un petit peu, dont vous en avez parlé tout à l'heure, et que quand Lormont se déclare ville éducatrice, et quand l'on veut que l'éducation, dans le bon sens du terme, soit au cœur de l'ensemble de nos politiques, on ne pouvait pas rester indifférent à ces grandes transformations. Luc Chatel l'avait proposé. Il faut rappeler quand même que l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait mis en place cette réflexion qui a été reprise par Vincent Peillon. Donc pour nous, il n'y avait pas précipitation. Il y avait une philosophie à laquelle nous avons adhéré complètement, puisque Lormont a, depuis ses 13 ans, en place des accueils périscolaires organisés dans l'école élémentaire. Donc nous avions déjà cette expérience. Et puis un choix politique. Le choix politique, ça a été de dire, nous croyons cette réforme et nous démarrons. Nous avons peu de temps, c'est compliqué, nous n'avons pas de certitude sur les financements ou sur les cofinancements, mais quand on croit quelque chose, on y va. Et le maire de Lormont a dit, nous y allons. Nous nous mettons en ordre de marche et nous y allons. C'est la raison pour laquelle nous avons largement participé à l'organisation et au souhait d'accueillir ces assises régionales de l'éducation partagée. Je me suis promené dans pas mal de villes en France pour porter la parole du réseau français des villes éducatrices, pour partager avec des collègues qui se posaient la question, mais aujourd'hui je n'ai rien sur mon territoire, comment le mettre en place, comment récupérer les enfants, comment apporter quelque chose, et que va devenir le rythme de la journée, parce que je crois qu'il faudra repartir de là. Comment les séquences vont être découpées pour permettre aux collectivités et donc aux enfants d'organiser autrement le temps hors scolaire. Voilà. Donc ça présente le tableau. Et puis nous sommes partis.
Donc ça a commencé depuis un peu plus d'un mois maintenant, Bernard Réveillé.
Nous avons déjà une première séquence puisque nous avons démarré le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, les parents avaient reçu, pendant les vacances du mois d'août, ont reçu le pré-programme. Alors, comme de nombreuses villes, d'abord, nous avons l'objectif, ce n'était pas de faire l'école après l'école. Donc d'emblée, en aucun moment, nous n'avons souhaité proposer, et personne dans le réseau des villes éducatrices n'a souhaité proposer, de faire des devoirs. Je rappelle que le ministre a insisté lourdement sur le fait qu'il n'y avait plus de devoirs écrits le soir à la maison. Il l'a répété. L'inspectrice de notre circonscription a même publié un texte qu'elle a envoyé aux parents et que nous avons traduit dans les quatre langues les plus couramment pratiquées sur notre commune. Donc, l'objectif, toujours dans cette visée éducative, mais ludique aussi, c'est de proposer aux enfants des parcours, un petit peu des parcours d'initiation à un certain nombre de choses qu'ils ne font pas forcément, qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors, comme de nombreuses villes, on a proposé, alors nous, on a 5 parcours. Ce sont des parcours qui permettront de découvrir tout ce qui va être autour du corps, le bien-être. Alors, pas uniquement taper dans un ballon pour faire du foot, ou du rugby, ou du judo, mais tout à fait autre chose. Je vais vous donner juste un exemple. À partir du retour des vacances de la prochaine, alors on n'appelle plus ça les vacances de Toussaint, on appelle ça les vacances d'automne, nous aurons Karima Menjeded, médaille d'or olympique malvoyante au judo. Elle vient sur Lormont. Alors, imaginez l'impact que ça peut avoir pour des enfants. Et elle va travailler sur tout ce qui est le toucher, la sensibilité. On est bien au cœur de ce qu'on veut apporter à des enfants. Nous avons des artistes qui viennent, nous avons des peintres. Ça, c'est tout l'aspect découverte, redécouverte, découverte de l'environnement, découverte des animaux. Et cela, sur les périodes que l'éducation nationale a libérées. Puisque le premier objectif de la réforme, c'était de réduire le temps scolaire. Donc, nous, mairie, en tout cas à Lormont, nous ne sommes pas mêlés de ce qui était le travail des enseignants, à savoir comment, pédagogiquement, et non plus éducativement, comment pédagogiquement j'organise le rythme de ma journée, quelles sont les plages que je libère, et nous, collectivités, dès le départ, dès le mois de novembre 2012, nous avons dit aux familles, tous les creux libérés, nous les prenons en charge si vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants.
Très bien, Bernard Réveillé, mais merci déjà pour ces explications qui permettent d'alimenter notre débat. On va passer la parole à Monsieur Claude Touzeau, président des Francas. Alors peut-être pour ceux qui encore parmi nos auditeurs ne connaîtraient pas les Francas, peut-être un bref rappel historique, une brève présentation. Et puis juste après, Monsieur Touzeau, revenir effectivement sur ces nouveaux temps créés grâce à la réforme des rythmes scolaires et du coup des activités préscolaires qui sont prises en charge sur nombreux territoires, notamment on le sait à Senon, Barès-et-la-Grave, Foirac, sur notre rive droite, mais pas seulement en Gironde. Allez-y, Monsieur Touzeau.
Oui, alors les Francas ont deux mots, fédération de centres de loisirs depuis 1945, mouvement d'éducation, populaire, et puis mouvement qui organise la formation des animateurs et des cadres plus généralement, puisque non seulement une formation habilitée BAFA-BAFD, mais également la formation professionnelle. Et puis une dimension depuis un certain nombre d'années, une dimension d'accompagnement, des collectivités, des associations, soit pour créer des structures pour les enfants, soit pour optimiser la qualité de ce qui se fait dans ces différentes structures. Donc dès le début, les Francas, alors je reviendrai après, dès le début, les Francas se sont positionnés en faveur de cette réforme, puisque depuis de très très nombreuses années, les Francas défendent cette idée que les loisirs sont éminemment éducatifs, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc loisirs éducatifs, et nous défendons également une autre idée, c'est la coéducation, la cohérence de l'éducation, puisque l'enfant, tout au long de sa vie, vit de multiples temps éducatifs, entre la famille, l'école, les loisirs, le centre de loisirs, mais aussi les activités sportives, etc., etc. Donc nous défendons depuis de très nombreuses années cette dimension de coéducation. Et nous l'avons mis, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, nous l'avons mis en place au travers de lieux qui s'appelaient les centres de loisirs associés à l'école, qui existent encore dans un certain nombre de départements, les CLAE, les écoles ouvertes également, qui avaient pour vocation, justement, comme son nom l'indique, d'ouvrir l'école à l'éducation. Donc, bien évidemment, nous avons soutenu dès le départ cette réforme. Nous avons été consultés par les services du ministère dès le départ au niveau de notre fédération nationale, et en Gironde nous avons pris contact avec l'éducation nationale, donc nous sommes membres du conseil consultatif de l'éducation nationale, du comité technique également fait avancer, essaie de faire avancer la réforme. Voilà donc pour la dimension un peu plus globale. Et puis dès le départ, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument accompagner les communes, notamment des communes qui, pour l'instant, n'avaient pas forcément de projet éducatif très précis, n'avaient pas de. Il y a des communes aujourd'hui qui n'ont pas d'accueil périscolaire le soir, etc., etc. Donc dès le départ, nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner ces communes, et nous avons créé une plateforme.
Pour éviter les inégalités sur le territoire, finalement.
Hein. Absolument, parce que là, il y a tout à faire pour le coup. Hein. Et puis même pour les autres communes, on savait que ça serait complexe, ça serait pas évident. Donc nous avons créé avec nos amis de la Ligue de l'enseignement une plateforme qui s'appelle ACTE, Accompagnement des territoires pour l'éducation, et nous avons communiqué avec toutes les communes girondines pour leur dire que nous étions à leur disposition pour les aider. Actuellement, très rapidement, 150 contacts donc avec des communes, et nous accompagnons un peu plus précisément une cinquantaine de communes ou de communautés de communes aujourd'hui qui ont fait appel à nous et que nous accompagnons pour la mise en place en 2014.
Alors pour ceux qui n'auraient pas été encore contactés ou qui le souhaiteraient, voilà, ils n'hésitent pas à prendre contact
absolument
avec les Francas Gironde.
Donc voilà, les Francas Gironde ou Ligue de l'enseignement. Et voilà, nous participons donc régulièrement à des réunions de parents, des réunions d'élus qui font appel à nous, et nous essayons de les aider dans la mesure du possible. Alors, une dimension un peu particulière des Francas, depuis plusieurs années, nous sommes devenus opérateurs, gestionnaires d'activités.
Ah, c'est le cas à Senon, par exemple.
C'est le cas à Senon, c'est le cas à Ambarès et La Grave depuis septembre 2012. C'est le cas à Florac, alors depuis de très très nombreuses années, puisque Florac, ça a été notre première action en tant que gestionnaire directement, puisque ça date de 2008. Donc,
bon, d'accord, c'est l'expérience la plus ancienne.
Florac
du coup,
était très en avance à ce moment-là, puisque leur souci, c'était effectivement de mettre en place des accueils périscolaires, de véritables accueils périscolaires. Donc nous les avons mis en place et nous avons créé dès le départ. Mais nous sommes également sur la communauté de communes de la Médulienne. Alors c'est pas la rive droite, sur la communauté de communes de la Médulienne, donc Castelnau, Sainte-Hélène, etc. Et puis sur la communauté de communes des coteaux bordelais, Tresse, Pompignac,
oui, Forac, les coteaux de Garonne.
Où nous gérons là également directement. Ces deux communautés de communes, elles, ont fait le choix de ne partir qu'en 2014. Donc nous sommes actuellement en train de les accompagner et de peaufiner les projets pour la rentrée 2014.
Alors on a envie de vous poser la question tout de suite, et, Monsieur Touzeau, en tant que président des Francas Gironde. Mais comment s'est passée finalement la mise en œuvre de cette réforme concrètement sur le terrain, hein, on cite des exemples de villes, Florac, Cambaceres-la-Grave, Senon, et parce que on imagine bien que vous êtes aussi un peu l'interface finalement entre d'un côté l'école, les enseignants, et puis de l'autre côté surtout les parents que l'on entend beaucoup en ce moment,
absolument,
même s'ils sont pas représentés ce soir sur ce plateau. Alors justement, déjà les réelles difficultés peut-être techniques, on peut en parler parce que on est, oui, quand même au démarrage de quelque chose de nouveau, donc on imagine bien que
avant de parler des difficultés techniques, je voudrais simplement insister, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses sur cette mise en place, je voudrais insister sur les aspects positifs. Les aspects positifs, c'est que l'ensemble des
éducateurs
se sont mis autour d'une table, ont échangé, toutes les communes sur lesquelles nous sommes et les autres avec lesquelles nous avons eu des contacts, toutes ces communes ont réuni systématiquement les enseignants, les parents d'élèves, les acteurs associatifs, souvent des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler, n'avaient pas forcément l'habitude de définir des projets. Alors ça, c'est vraiment l'aspect positif, c'est que l'enfant, le rythme de l'enfant, la vie de l'enfant,
permet le dialogue à travers toutes ces composantes.
A permis le dialogue, effectivement, a permis le dialogue et a permis aussi à chacun d'échanger sur son propre projet, sur sa façon de voir l'organisation. Alors bien évidemment, quand on met tous ces gens-là autour d'une table, bah, bien évidemment, ça crée des problèmes. C'est pas sans difficulté, parce qu'il y a, dans cette organisation des rites, il y a des intérêts divergents. Il y a des intérêts divergents. Les intérêts des enseignants ne sont pas les mêmes que les intérêts des parents d'élèves, ne sont pas les mêmes que les intérêts de... Alors, quand je dis les intérêts, c'est au sens large du terme.
Bien sûr, c'est
la situation de l'association, des situations des associations sportives qui ont des habitudes de fonctionnement, etc. Donc, tout ça, ça donnait lieu à des échanges. Il a fallu de toute façon trouver un consensus à un moment donné, et c'est sans doute aussi l'important de la réforme. Chacun doit pouvoir y trouver son intérêt, mais il est vrai qu'on a eu dès le départ dans des réunions, lorsque les communes ont mis en place ces concertations, il y a eu des postures qui quelquefois étaient assez loin de l'intérêt même si chacun reconnaissait qu'il travaillait pour l'intérêt de l'enfant. Mais pourtant, quelque part, il y a quand même à un moment donné... Donc ça, il a fallu passer outre, il a fallu avancer là-dessus.
J'ai envie de dire, c'est le propre de chaque réforme. Hein.
Absolument, absolument.
Lever les freins même à l'interne de ceux qui étaient d'abord pour cette réforme, et puis à la fin...
Oui, il y a eu des... On a eu un certain nombre de contradictions aussi, mais ce que je veux dire, c'est quand même que... globalement, il y a quand même eu du positif un peu partout. Il y a eu des avancées. La preuve, c'est qu'en 2013, un certain nombre de communes sont parties.
On le disait, près de 20%, 17% des communes déjà passées dès 2013 à la réforme.
Alors après, quelques ratés dans ce que je peux dire aussi, dans les difficultés.
Évoquez-les quand même tout de même.
Nous avions prévenu dès le départ que dès le jour de la rentrée, tout ne serait pas là, parce que nous avions des éléments qui nous manquaient. Par exemple, le nombre d'enfants qui fréquenteraient effectivement ces temps d'accueil. Donc comment organiser avec ça? L'implication des associations. Quelle implication? Pour quelle durée? Pour quel engagement? Comment les familles allaient réagir à ça? Et puis les enfants aussi. Comment les enfants allaient apprendre ça? Donc nous avions choisi, dans les trois communes sur lesquelles nous sommes engagés, nous avions choisi de dire: le mois de septembre sera un mois d'essai. On va présenter un certain nombre d'activités, on va donner le choix aux enfants. Ça sera moins formalisé que ce qui était attendu, mais il y aura une découverte, mettre en appétence un peu, si je puis dire, les loisirs, et puis les enfants qui sont là, pour qu'ils puissent choisir. Et à partir du 1er octobre, donc c'est fait aujourd'hui sur Ambarès et sur Florac, donc à partir du... Là, il y a vraiment des parcours.
Donc depuis une semaine,
le
programme est établi.
Voilà, il y a un programme, il y a un choix des
enfants. Les animateurs sont référencés.
Les enfants ont des fiches sur lesquelles ils s'inscrivent. Voilà, à ce nom, ça va être fait la semaine prochaine.
Voilà,
et puis, il y a des ajustements à faire. À ce nom, nous avons, à l'initiative de la commune de ce nom, il y a une réunion la semaine prochaine avec l'ensemble des directeurs d'école, l'ensemble des parents d'élèves représentants et les francas, bien évidemment. Et toutes ces personnes vont faire le point, réajuster éventuellement éventuellement, parce qu'il y aura forcément des réajustements à faire.
Alors, monsieur Touzeau, avant de passer la parole à un enseignant ou un ancien enseignant, juste avant, peut-être prendre la température quand même. Est-ce que vous, en tant qu'un peu tampon, évidemment, entre plusieurs intérêts, vous le disiez vous-même, le remonter de la parole des parents d'élèves, pour l'instant, qu'est-ce que vous. Comment vous l'analysez ?
Alors, les parents d'élèves, nous avions mis en garde dès le départ parce que le discours qui a été présenté par le gouvernement était un discours ambigu, je dirais, c'est peut-être pas le mot, mais dans la mesure où on semblait promettre monts et merveilles, c'est-à-dire que tout d'un coup, on allait apporter des activités extraordinaires, des nouveautés sensationnelles.
Des découvertes, d'épanouissements,
voilà. Alors
nouvelles expériences.
Nous avions mis en garde, et ça a marqué beaucoup, donc les parents attendent aujourd'hui un niveau d'activité qui n'est peut-être pas celui qu'on pourra assurer partout, tout de suite, parce que ça va être très très évolutif et tout. Donc là, à chaque fois que nous avons rencontré des parents, nous leur avons bien précisé que, alors, d'une part,
c'est tempérer leur ardeur, finalement.
Parce que, oui, absolument, parce qu'il y a des impossibilités, c'est clair, mais il y a des impossibilités parce qu'il y a des aspects financiers, des aspects d'organisation, même si on a des...
On en parlera de la finance, de ce réforme.
Voilà. Donc, et puis, il y a un autre aspect quand même qui est très important, c'est que cette réforme, elle est faite pour que l'enfant retrouve un rythme harmonieux, un rythme où il prend du temps, etc.
Et ça, les parents sont conscients, enfin, dans les remontées qu'ils vous font,
est-ce qu'ils sont contents de... Ils commencent à en être conscients parce que nous les sensibilisons, et puis leurs enfants, leurs propres enfants, les sensibilisent parce que...
Mais ça fait déjeuner moins chargé, à 5 heures, ils se retrouvent en cours de maths.
Le gros risque, c'est une suractivité, c'est un défaut, c'est un problème qu'on connaît déjà en dehors. Hein, les parents, beaucoup de parents, suractivent leurs enfants parce qu'ils veulent les inscrire à tout ce qui se fait. Et là, officiellement, institutionnellement, on risque d'apporter encore de l'activité. Donc, notamment pour les maternelles, nous sensibilisons les familles aussi pour les maternelles. Attention au rythme qu'on va leur donner. Est-ce que pour les maternelles, on va demander à des enfants de 3-4 ans de choisir tout un catalogue d'activités et puis d'y aller très vite, quoi. Et un dernier petit point, c'est la nécessité aussi, et ça a été beaucoup débattu dans l'organisation même des journées, c'est la nécessité de laisser un temps entre la fin du temps scolaire et le début des activités, de
temps
ces
de
nouvelles
pause,
activités.
Un temps de goûter, un temps d'aération.
Parce que si on fait mathématiquement ces trois quarts d'heure de temps d'activité nouveau, et si on enchaîne ces trois quarts d'heure parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'en trois quarts d'heure on n'a pas le temps de faire beaucoup, là on va à la catastrophe, parce qu'on le sait, les enfants ont besoin de ces temps d'étendre.
Merci beaucoup M. Touzeau pour ces explications. On va passer la parole à Jacques Brunet. Alors Jacques Brunet, si on devait retracer votre parcours, votre vie, il ne suffirait pas d'une émission, il faudrait en faire plusieurs. Alors Jacques, enfin ancien prof, Jacques Brunet, sur la rive droite, et de nombreux élèves vous connaissent et se réclament encore de vous. Donc un mot quand même sur cette réforme, Jacques, avec évidemment votre proximité encore le monde enseignant, notamment le groupe Freinet, avec lequel vous avez œuvré pendant de nombreuses années. Un mot alors d'analyse sur cette réforme, Jacques.
Alors bon, il se trouve que j'ai voulu voir de près, hein, avec un regard quand même très distancié, parce que ça fait 15 ans que je ne suis plus actif. Et je suis allé sur ma commune, école d'Artigues près Bordeaux, grosse école, enfin pour moi, 400 élèves. Et puis bon, j'ai passé un moment de 16h à 16h45. J'ai essayé de voir. Alors c'est une vision très très superficielle, sûrement. Hein. J'ai trouvé que ça marchait. Et ça, c'était il y a quelques jours. Hein. Très bonne organisation. Hein. Alors, la pause, pas trop de pause, mais enfin, 5 minutes, 10 minutes. Hein. Donc, il restait bien 35 minutes d'activité.
Alors, c'est vrai que Jacques, c'est bien d'entendre ça, parce qu'en ce moment, on entend plutôt autres voix, comme quoi ça ne fonctionne pas. Quoi,
total avec ce qu'on entend par certains médias. Quoi. Enfin, c'est avec des visions très caricaturales. Hein. Là, vraiment, des enfants très très intéressés, captivés par les activités qu'on leur proposait. Deux gamines qui m'expliquent ce qu'elles vont faire là, bon, qu'elles attendent avec impatience. Bon, mais alors, ce qu'il y a, alors des choses très positives, j'ai trouvé, c'est il y a des parcours, hein, je crois que ce sont les parcours, mais il y a une certaine obligation, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas telle et telle activité, et c'est cette découverte un peu forcée, hein. Moi je trouve ça vraiment très très bien, parce que bon, il y a des enfants qui n'iraient pas directement à telle ou telle activité, là ils passent, c'est vraiment la découverte, hein, et des ouvertures qu'ils n'auraient pas eues si on avait suivi leur désir,
quoi.
Voilà, ça vraiment très positif. Bon, alors et puis c'était, alors la fatigue, moi je l'ai pas vu, c'était très très dynamique, ça marchait bien là aussi. Il y a peut-être de la, là il faut nuancer bien sûr, on peut pas porter des jugements globaux comme ça. Bon, alors 35 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire en 35 minutes? Bon, mais j'ai vu des tas de petites difficultés, bien entendu, hein. Une organisation, c'est lourd, hein, comme organisation. Là, un personnel qui est passé avec moi autour des 6 activités qui étaient proposées. Bon, les enfants sont libres de ne rien faire, hein. Ça aussi, ça me parut très bien. Bon, ou alors ils ont des activités sportives dans la cour. La sécurité est totalement observée. Hein, le lieu. Alors, il y a des. Évidemment, cette visite à Artigues, il faut dire que c'est une école un peu privilégiée parce que beaucoup de places, beaucoup de places. Donc, des classes utilisées, les enseignants n'ont fait aucun problème pour céder leur classe. Bon, le réfectoire, enfin tout est occupé, hein, et il y a de l'espace, hein, voilà, c'est très important aussi. Si on fait une activité dans un petit coin, comme ça arrive, j'ai entendu dire aussi que c'est pas toujours le cas, hein, exiguïté des locaux, voilà. Donc quelque chose d'apaisé. Alors j'ai posé la question
aux enseignants, justement, le retour des enseignants.
Alors, excusez-moi, mais je n'en ai pas vu un seul.
Ah bon?
Alors, c'est un problème sur lequel j'aimerais revenir.
Mais peut-être voilà. Maintenant, Jacques, voilà. Alors, justement.
Non, parce que c'est vraiment un énorme problème, ça, et un problème, pour moi, capital.
Hein, il y a la dichotomie entre éducation populaire et éducation
bien sûr,
nationale.
Exactement.
Alors, il faudrait l'articulation à cet endroit-là.
Mais évidemment. Oui. Bon, je crois que nous sommes d'accord.
Hugo Hamès, peut-être une question?
Oui, monsieur le courrier de Gironde. Vous parliez tout à l'heure d'activités auxquelles des élèves n'auraient pas été forcément de leur plein gré. Mm-hmm. Lesquels?
Ben, je sais pas, j'ai vu les échecs, l'initiation aux échecs, et bon, il y a la curiosité, hein, et puis avec les échecs, ben, on fait des maths, on fait de tout, là aussi, hein, c'est pas dissocié de l'enseignement pur et dur, hein, voilà, hein, il y a des tas de passerelles possibles.
Oui, Paul-Michel Borgne.
Oui, merci. Je voulais interroger Jacques, parce que je voulais savoir, autrefois, les instituts n'avaient-ils pas le devoir d'avoir le BAFA, le fameux brevet d'aptitude de fonction d'animateur ?
Question très importante, je pense que...
C'est Touzeau.
Claude Touzeau va être tout à fait d'accord avec ça.
Oui, bah, c'est une question compliquée. Nous sommes intervenus, puisqu'il y a eu la création des ESPE, les écoles supérieures du professorat, et nous avons beaucoup insisté au niveau national pour qu'il y ait cette dimension éducation populaire dans les ESPE. Bon, pour l'instant, on attend un peu. Il nous semble qu'il y a effectivement une dimension très importante à sensibiliser les enseignants. Alors bon, pour l'avoir connu un peu, le BAFA obligatoire, c'était pas suffisant, mais c'était une ouverture qui n'était pas négligeable. Et c'est pour ça que nous souhaitions, et nous avons pris aussi des contacts avec l'UFM il y a 2 ans de cela, où nous avons essayé aussi de travailler avec les formateurs pour que les enseignants aient cette sensibilisation. Et nous espérons et nous souhaitons vivement que les ESPE fasse une large place à l'éducation populaire et une autre façon d'appréhender l'éducation.
Alors, un dernier mot peut-être pour l'instant, c'est les parents. Hein. Alors, les parents, il y a eu quelques retours. Bon, au bout d'un mois, c'est
difficile. Oui, des mobilisations, on
encore.
Le voit ici ou là, ouais, devant ouais, des écoles, ouais, même chez ouais, nous, sur la rive droite.
Bon, mais là, ils ont, y a pas eu de, enfin, ils ont été fortement associés à toutes les réunions de concertation, bien entendu. Mais et là, sur le moment même, bon, bah, ils attendent 16h45 sans trop de difficultés. Mais les enfants peuvent partir à 16h, de toute façon. Alors, j'ai vu un incident avec un parent qui a été assez violent, qui voulait récupérer sa gamine à 16h30. Et or, c'est... Là, c'est pas la prison, mais enfin, c'est la sécurité est totalement
prévue. Oui, on rentre
prévue,
pas, on sort pas.
Hein. Non, bien sûr. Ouais. Donc, il y a des règles. Hein, il y a des règles et les parents doivent accepter ces règles. Voilà pour l'instant. Donc,
très bien.
Une vision très, très superficielle, peut-être. Hein, et puis, qui montre que les différentes d'écoles, hein, de moyens sont importantes. Bon, à Artigues, bah, y avait des, effectivement, associations. Il y a tout un environnement qui était favorable.
Peut-être Joël Aubert pour acquis.fr, Joël.
Sur ce que dit Jacques, car effectivement, nous raisonnions, là c'était tout à fait intéressant, en raisonnant sur une périphérie de ville de la rive droite, à proximité de nous sommes. Évidemment, quand on s'en éloigne, quand on va sur des territoires ruraux, on n'est plus tout à fait dans les mêmes schémas, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, ce que les communes peuvent mettre en ligne, y compris mobiliser des gens qui sont en situation avec une certaine compétence de prendre le relais.
Oui, donc, les animateurs, les associations.
Voilà, bon, je ne vais pas rappeler ici, mais qu'un homme de la rive droite qui est un enseignant qui s'appelle Jean-Marie Darmian a pris des positions qui étaient assez vives à cet égard pour souligner, je le rappelle parce que je crois qu'il faut le dire, pour souligner qu'il y avait de grandes disparités. Sur le territoire, et que cela méritait que l'on s'y penche et qu'on se le dise notamment, puisque l'année prochaine on est dans une obligation. Oui. Comment il y aura peut-être, je me parle sous votre contrôle, M. Rivalier aussi, un an ça va très vite, voilà un trimestre qui va être passé avant même qu'on s'en soit aperçu, je me dis, il va falloir préparer la rentrée 2014 en essayant dans ce pays ici, où l'égalité est si centrale dans toutes les réformes, en essayant de se dire comment on fait pour que tout le monde soit
et des
traité
offres de
un
qualité,
peu de façon, en tout cas,
pour
en
le
tout
périscolaire,
cas, de façon égale. Hein. Voilà. Bon,
c'est une véritable question. D'ailleurs, M. Rivaillon, on vous donne la parole. Alors, c'est vrai, cette articulation, c'était alors, sous-jacent entre l'éducation populaire, l'éducation nationale, voilà, les relais.
C'est la question que l'on soulève, nous, au niveau national. Hein. Donc, ben par oui. le biais du réseau français des villes éducatrices, il est évident que ce ne sont pas que des villes comme Paris, Lyon, Marseille.
Qui ont repoussé la réforme en 2014, d'ailleurs.
Paris est parti.
Non, Paris, non, mais Lille, Marseille, Lyon.
Oui, oui. Alors, ils l'ont repoussé pour deux raisons essentielles. L'ampleur de la tâche, et je vous dirais, pour une ville de 22 000 habitants, l'usine à gaz que ça a représenté, une usine à gaz qui fonctionne. Mais c'est quand même un sacré enjeu. Parce que je vous donnerai aussi, par rapport à ce qui est expliqué sur les fameux trois quarts d'heure, l'option que nous avons prise à Lormont en termes d'éducation globale. Donc notre volonté au niveau national, c'est de pérenniser ces fonds. Parce qu'il est évident que pour que les communes partent, il y a les fameux fonds d'amorçage. Mais il y a aussi les fonds qui sont accordés par la Caisse d'allocation familiale sur... des accueils spécifiques, et je crois que Claude Touzeau l'a bien dit, sur des accueils spécifiques avec du personnel qualifié.
Oui.
À partir du moment où nous avons du personnel qualifié, un taux d'encadrement qui est conforme au taux d'encadrement voulu par la Caisse d'allocation familiale et Jeunesse et Sport, il est évident que dans ce cadre-là, qu'on soit en commune rurale ou commune urbaine, la Caisse d'allocation familiale va nous verser des prestations qui vont diminuer le coût pour les familles. Parce qu'en clair...
Alors, pour rappel juste, M. Rivaillé,
oui.
Donc l'aide, vous en parliez à l'instant, apportée par la Caisse d'allocation familiale, va s'élever, donc s'élève déjà, d'ores et déjà, pour les communes qui ont adopté la réforme dès cette rentrée 2013, à 53 euros par an et par enfant.
Oui.
Et Vincent Payon, dans une...
En plus du fonds d'amorçage.
Voilà. Vincent Payon, dans une récente déclaration, a dit que ce fonds, cette aide serait pérennisée sur 3 ans. Effectivement, le fonds d'amorçage, lui, s'élève à 250 millions d'euros. Et d'après ce qu'on a compris hier, après la rencontre entre le Premier ministre et l'Association des maires de France, ce fonds serait, on va dire, pérennisé au moins sur l'année prochaine.
Ah ben, alors moi, je peux vous dire, parce que nous l'avons appris lors d'une réunion à l'Assemblée nationale à Paris... suite à la décision à la forte pression du ministre des Affaires sociales, qui est la tutelle de la CNAF, le président de la CNAF a proposé sur ce qu'ils appellent le contrat de gestion, hein, qui va jusqu'en 2017, 3,5% d'augmentation systématique tous les ans. Et sur ces 3%-là, un peu plus de 3%, plus de la moitié est consacrée à la réforme des rythmes scolaires, l'autre moitié étant à l'accueil de la petite enfance. Parce que, je voudrais juste insister sur deux points. Pour nous, à Lormont, la refondation de l'école, ça a été l'accueil systématique des enfants de 2 ans, avec du personnel spécialisé, avec des moyens nouveaux. La refondation de l'école, ça a été de dire plus de maîtres que de classes. Nous l'avons vécu sur Lormont. Nous avons eu 4 créations de postes, en plus des 2 créations sur les classes des tout-petits.
Voilà, on est vraiment dans la politique volontariste, dans le choix politique. Mais hein, on priorise évident, l'éducation,
l'épanouissement de nos enfants. En échange, la ville de Lormont a créé les postes nécessaires. La ville de Lormont a construit des bâtiments ou reconstruit des bâtiments. Hein,
donc avec c'est un choix budgétaire, on est bien d'accord.
Tout à fait. Et l'autre choix que nous avons fait, quand je parlais de politique globale, tout le monde s'est fixé sur ces fameux 3/4 d'heure libérés. Sur Lormont, le message qui a été adressé aux familles dès le mois de novembre, c'est « Nous prenons vos enfants dès la fin des cours ». Nous ne savions pas à quelle heure, à l'époque, les cours allaient finir. Globalement, la plupart des écoles vont finir autour de 16 heures. Il se trouve qu'à Lormont, les enseignants ont proposé de finir à 15 heures le vendredi pour libérer davantage les enfants. Imaginez le casse-tête d'organisation pour une commune, des enfants qui reprennent l'école à 14 heures et qui finissent à 15 heures.
Oui, sans compter que des fois, les espaces sont à des lieux différents et donc il y a aussi du transport qui intervient.
Donc, nous, nous avons dit aux familles, les années précédentes, nous gardions vos enfants dans le cas d'accueil périscolaire jusqu'à 18h30. Nous continuerons à les prendre en charge jusqu'à 18h30. Simplement, on va vous proposer, alors ça va rebondir, c'est ce que disait Jacques Brunet, des périodes où vous venez librement chercher votre enfant et des périodes où vous nous demandons de les laisser, car ils sont sur des activités éducatives qui peuvent avoir lieu à l'extérieur, voilà, et qui ne peuvent pas être
Et faire la différence donc entre ces périodes d'animation, de découverte, absolument, et la garderie, quoi, en
donc,
fait. On ne vient pas quand on veut,
du
comme
coup,
le parent,
16h30, c'est un temps de repos, un temps d'acclimatation, c'est le goûter, c'est le temps où les enfants vont se répartir dans les différents ateliers. Les directeurs de zone vont les pointer en fonction de celui qui prend le bus pour aller faire du judo, celui qui reste sur place, celui qui va à la médiathèque. C'est cette première demi-heure. Les parents ont toute la demi-heure pour venir chercher leur enfant en fonction de leur envie. 16h30, 17h45, ce sont des ateliers. Ce sont des ateliers qui durent, c'est-à-dire on s'inscrit dans la durée. 17h45, 18h, c'est le retour sur les sites d'accueil où les parents peuvent venir les chercher à partir de 18h. Et 18h, 18h30, libre, donc c'est le fameux parcours 5, ce sont des tout petits groupes, c'est les parents qui travaillent un peu tard et qui ont besoin d'attendre jusqu'à 18h15.
Non, voilà, pour ceux qui se poseront encore des questions, les communes, il y a les Francas, mais aussi la mairie de Lormont qui peut donner quelques conseils.
Hein. Nous sommes opérateurs, en plus, nous avons choisi d'être opérateurs, c'est-à-dire que nous avons embauché du personnel. Alors, on parlait du BAFD, qui est le brevet d'aptitude à la fonction de directeur. Nous avons créé 4 zones sur la ville, 4 directeurs de zone. Nous avons aujourd'hui 100 personnes, animateurs, qui interviennent tous les soirs sur la ville de Lormont.
Alors certains vont poser la question, quelle incidence sur les impôts, les finances locales?
Et combien ça coûte concrètement à la mairie de Lormont?
Aux familles, aux contribuables
Alors, combien ça coûte? Je vous disais en préambule que nous avions déjà un dispositif qui fonctionnait.
Tout à fait. On
nous
parle
avions
du fonds d'amorçage,
un peu plus
des aides de la
55 à 60 animateurs qui fonctionnaient tous les soirs.
Ça, c'est le dispositif
nous avions
avant
déjà
la réforme.
Ça, hein. Bon. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, c'est vrai que notre inquiétude, et on l'avait bien vu lorsque on a réalisé les assises à Lormont, c'est l'appel d'air que ça allait créer. On avait une inquiétude, les différentes communes, un appel d'air à la fois sur la pause méridienne.
Et faut qu'elle fasse 1h30 maintenant.
Oui, nous étions déjà sur 2h, hein, et donc nous gardons 2h. 2h, c'est ce qui permet... Alors, sur la pause méridienne, nous avons des activités aussi. C'est-à-dire, nous proposons aux enfants qui le désirent de mener une activité ludique, sportive, culturelle, intellectuelle, mais ils restent sur le site de leur école.
D'accord.
Donc, pour les parents, c'était important. On a eu à peu près 10% d'augmentation d'enfants qui mangent à la cantine.
Alors, lié à ces activités,
lié
justement.
Lié à cette proposition d'activité formalisée. Nous les avions avant, mais en fait, c'était au bon vouloir d'un animateur sportif, d'une école qui accueillait. Et puis, l'objectif de la ville de Lormont, c'était, on a toujours dit gagnant-gagnant. Donc, comment fidéliser des animateurs à qui on allait pouvoir proposer des périodes d'emploi plus longues ? Ils sont animateurs annualisés au centre de loisirs. Comment les faire travailler le soir ? Comment leur permettre d'avoir un véritable emploi ? Parce que la grande question que soulevait le rythme, c'est est-ce qu'on fait venir quelqu'un pour trois quarts d'heure ?
Et oui.
C'est pas possible.
Deux fois dans la
semaine.
C'est
pas réaliste. Donc nous avons choisi une pérennisation. Nous avons embauché du personnel et nous avons soit formé ce personnel, soit embauché du personnel formé, soit passé par des associations. Hein ? Puisque nous sommes à la radio, nous avons, avec Eau de Radio, souhaité mettre en place des ateliers radio pour une ou deux écoles.
Des ateliers découvertes radio, quoi.
Et il est évident que ça représente un coût. Ce coût, il est pris en charge systématiquement par la ville, avec comme objectif d'utiliser le fonds de compensation qui nous sera versé au mois de décembre en fonction du nombre d'enfants inscrits dans les écoles l'année scolaire précédente. Et les 30% restants au mois d'avril, au regard des enfants nouvellement inscrits dans l'année scolaire 2013-2014.
Alors, tant que ce fonds est en place, effectivement, on voit les financements sont assurés, mais d'ici 3
Écoutez,
ans...
Moi, j'ai une estimation. Pour la première période, donc qui est allée... Nous avons démarré le 4 septembre. Hein, le 4 septembre, c'était un joyeux bazar, mais c'était tellement agréable.
Vous essuyez les plâtres, comme on dit.
Oh là,
on
arrive oui. Un joyeux bazar, parce qu'en fait, on avait proposé aux familles un calendrier, des colonnes à remplir, en leur disant, voilà, vous vous inscrivez à la mairie, mais ce sont vos enfants qui vont choisir les activités. Grande découverte. Et ils vont choisir les activités quand ils auront vu avec quel animateur ils vont la faire. Et puis, dans la première période, on ne pourra pas tout faire, parce que ce que vous faites sur Carrier, eh bien, vous ne le ferez pas au Grand Tressant. Par contre, la période d'après, le Grand Tressant aura vos activités, puisque notre objectif, et je crois que beaucoup ont passé, c'est de tourner. Il y a 5 périodes, dans l'année scolaire, on a 5 parcours, 5 périodes, 5 parcours, 4 zones. Un bon mathématicien, il secoue tout ça, il le fait marcher. Donc c'était ça l'objectif. 117 000 euros, le coût transport compris pour la première période. Alors, nous avions déjà un investissement. Ce que le maire nous a demandé d'essayer de calculer, et je dis bien d'essayer parce que alors là je mets au défi une commune capable de vous dire aujourd'hui combien ça lui coûte.
C'est vrai que c'est des questions qui restent souvent sans réponse. Mais, hein.
Alors, combien ça lui coûte ? Le maire a dit, j'ai un budget, on a un BS, et bien nous passerons au BS. Quand on a fait un choix politique,
ce on choix trouve politique, les financements.
Il était réaliste en plus, il était réaliste. Les travaux, j'ai participé moi aussi aux réunions à Paris sur la refondation, on avait estimé globalement combien par tranche de 100 enfants ça pouvait coûter avec un ratio d'un animateur pour 10 ou un animateur pour 14. Donc on avait des chiffres. Donc globalement, ce que la ville de Lormont va toucher, ce que n'importe quelle autre ville toucherait au prorata des activités proposées, la ville n'a pas à investir beaucoup plus, si ce n'est qu'elle a à se poser des questions en termes d'ingénierie et de communication. Et je crois que c'est là que est le plus gros écueil sur lequel on s'est trouvé confronté. En termes d'ingénierie, imaginez, j'ai les chiffres récents. Nous avons sur 2200 enfants, 1450 dossiers d'inscription au TAP. 1450. On en avait 900 l'année dernière. Ce qui veut dire que les parents ont compris que ça marchait. On parlait d'égalité de traitement. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas que les parents qui ne travaillent pas. Non, pardon, il n'y a pas que les parents qui travaillent qui viennent.
Oui.
Il y a aussi les parents qui ne travaillent pas. Et donc, on va faire un mélange de toutes ces familles, parce que tout le monde va trouver un intérêt à ce que son enfant, une fois, deux fois, parfois trois fois, par semaine, fasse une activité.
Ce que vous voulez dire, voilà. Et ça, c'est finalement des familles qui avaient peu de moyens pour financer finalement des activités périscolaires à leurs enfants, mais là, ils vont permettre, grâce à cette réforme, que leurs enfants découvrent des univers. C'est ça. Hein, c'est
et
ça
et vous voyez l'enjeu politique, là derrière. Troisième élément, l'année dernière, quand nous faisions ces accueils aux familles, la mairie en prenait une partie en charge, on faisait financer par les familles. Aujourd'hui, comme nous avons des compensations,
oui, pour
les familles,
c'est
pour plus de
gratuit.
Temps, c'est pas gratuit, c'est moitié moins cher.
Oui, c'est moins cher que...
Mais quand je dis moitié moins cher, c'est-à-dire on en est actuellement à 0,07 centimes de la demi-heure.
D'accord,
c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire ça représente 30 et quelques euros l'année sur le dispositif.
D'accord.
Donc, notre objectif, plus et mieux, gagnant-gagnant. Par contre, que nous prenions en plein dans la figure la difficulté de la mise en place et la difficulté de la communication, eh bien, je crois que c'est notre travail en tant qu'élus de retourner au charbon régulièrement pour expliquer, pour sensibiliser, pour faire comprendre.
Alors peut-être Claude Touzeau, Joël Aubert effectivement parlait des inégalités mais d'offres finalement sur le territoire, oui. Parce qu'on l'a bien compris entre par exemple les villes du GPV où on retrouve une densité d'associations avec des prestations et peut-être un milieu rural où on va retrouver un peu plus de désert associatif, on va pas avoir les mêmes offres. Et vous pensez que ce financement qui est aujourd'hui proposé permettra au final d'arriver à une inégalité justement d'offres, de prestations de qualité pour les enfants sur l'ensemble du territoire, zone rurale comprise, et bien entendu.
Alors, le déséquilibre, il est d'abord dans, dans la volonté politique des différentes communes. Les communes dont on parle, et celles sur lesquelles on est, Senon, Floirac, Lormont, Ambarès, avaient tous déjà une réelle volonté politique par rapport à l'éducation. Donc, ils avaient des projets.
On va dire que c'est plus facile déjà.
Des accueils
chez
périscolaires
eux,
partout, tout était structuré, tout était.
Et des
compétences, déjà une volonté également de faire travailler les différents acteurs ensemble, etc. Donc, bien évidemment, par rapport à une petite commune du fin fond de la Gironde qui, elle, n'a même pas, je le disais tout à l'heure, d'accueil périscolaire, n'a pas de structure, etc. Là, il y a un réel déséquilibre. Mais c'est d'abord la volonté, la volonté politique. Alors, après, c'est les difficultés à construire. Je serai tout à l'heure à l'initiative de Jeunesse et Sport à Langon, donc Jeunesse et Sport qui vient d'accompagner aussi, qui commence à accompagner aussi les différentes communes, fait des réunions d'arrondissement et va avoir l'ensemble des questions des maires qui vont être là. Donc là, c'est un peu plus compliqué, notamment sur l'offre d'activité. Parce que les petites communes rurales, elles n'ont pas forcément une bibliothèque, elles n'ont pas forcément des activités musicales, etc. Donc là, il y a un véritable enjeu et il faut qu'on accompagne, qu'on trouve des synergies entre les différents
c'est
territoires.
C'est le moment d'aider des associations locales au fin fond de la campagne, justement.
Oui, mais c'est parce qu'il y a quand même...
En termes de qualification, de professionnalisation.
Absolument. Et de créer des emplois.
Voilà. Bien sûr.
Donc notre plateforme vient de publier un catalogue très conséquent de formation, parce qu'on sait que ça va être important, parce que il y a dans les différentes organisations, et il y en aura notamment en milieu rural, des interventions bénévoles également, mais bien. Des bénévoles qui ne peuvent pas intervenir. Donc il faut former ces personnes, il faut former les autres acteurs, les clubs sportifs, il faut aussi voir les cohérences d'éducation qu'il peut y avoir. Donc là, il y a tout un travail. C'est pas facile, c'est beaucoup moins facile que dans les communes dont on parle, mais c'est réalisable, vous l'avez cité tout à l'heure. À Créon, les activités se sont mises en place, même si là déjà il y avait une forte volonté politique. Le ministre Payon, nous y étions, est venu visiter à Saint-Denis-de-Pile, est venu visiter les accueils de l'interclasse, puisque Saint-Denis-de-Pile a choisi d'allonger l'interclasse et de faire des ateliers. Donc là aussi, il y a une volonté. Saint-Denis-de-Pile, c'est quand même pas une commune de... Voilà, donc
un très bon festival.
J'étais à Carignan récemment, qui se prépare pour la rentrée 2014 avec une concertation exemplaire entre les différents partenaires et puis une organisation qui est déjà pratiquement au point qui va se faire. Donc je pense que vous avez raison de souligner,
oui.
C'est vraiment le problème numéro un, c'est comment faire en sorte. Alors il y a quand même un enjeu énorme, c'est que ces petites communes qui pour l'instant s'étaient peu souciées pour des raisons qu'on connaît de l'éducation extrascolaire ou périscolaire, finalement, ce dispositif va les amener à s'en soucier. Et on ne peut pas rêver mieux pour l'intérêt de l'enfant.
Hein. Très bien.
Sans doute, on peut même imaginer de décloisonner. C'est-à-dire que c'est peut-être une occasion unique dans des communes rurales qui ne sont plus tout à fait rurales. On sait qu'elles deviennent de plus en plus urbaines. De trouver des synergies, d'amener des compétences nouvelles, des regards nouveaux sur l'environnement et d'essayer d'insuffler ces autres dimensions. Enfin, je m'imagine ça, ce qui peut être d'ailleurs assez passionnant, puisque ce qu'on observe en lecture immédiate, c'est souvent un vrai cloisonnement. Des gens se transportent, se posent, et il leur faut un certain temps d'acclimatation avant qu'ils ne commencent à comprendre où ils sont, comment ils partagent les valeurs de non-endroit, les activités. C'est peut-être un accélérateur. Enfin, moi, je me l'imagine, en tout cas, sur ce qu'on observe.
Oui, allez-y.
Oui, peut-être juste un mot pour compléter. C'est vrai qu'il y a aussi une aspiration, une forte demande sur le culturel dans ces milieux ruraux. Et là, ben voilà, une synergie toute trouvée. Comment optimiser des organisations, des associations culturelles et au service de ça. Parce qu'il va falloir trouver des compléments. Je l'ai pas dit tout à l'heure, je profite juste deux secondes pour dire qu'un des points essentiels quand même, même si on fait appel au maximum à des associations déjà constituées, etc., c'est quand même le statut des animateurs de ces temps-là. Alors, je sais pas si on
et j'ai envie de dire le statut des animateurs et la liaison avec le monde éducatif, avec les enseignants.
Absolument. C'est vraiment... mais le statut même des animateurs, c'est un souci que nous avons porté aussi au niveau national dès le début, c'est que pour autant, même si les associations interviennent, et nous le voyons dans les trois communes sur lesquelles nous sommes, il faut quand même un complément d'embauche d'animateurs. Et lorsque les temps complets ont été trouvés entre l'accueil de loisirs du mercredi, les accueils de loisirs des vacances, etc., ben, pour autant, il reste des... Et là, nous avons, sur ces trois communes, procédé au recrutement de quasiment 50 animateurs. 50 animateurs à qui, pour l'instant, nous ne pouvons proposer qu'un
contrat quelques heures
de
par semaine,
4 heures par semaine.
Donc, sur reste 36 vraiment des semaines précaires,
de,
on est
de l'année. Donc, voilà. Donc ça, c'est un véritable problème aussi.
Et un enjeu aussi voilà. de cette
réforme. Avec une pérennisation qui est beaucoup plus difficile parce que on l'a déjà en un mois.
On le comprend.
On l'a déjà vécu en un mois. On a des gens qui sont embauchés, qui reste une semaine et qui trouve mieux et qui s'en va.
Évidemment, le contrat à durée déterminée, à temps plein. Oui, Jacques Brunet.
Oui, je voudrais revenir parce que...
Le temps passe, Jacques, il nous reste 5 minutes.
Oui, revenir sur éducation populaire et éducation, parce que ça me paraît vraiment essentiel. Peut-être que ça demandera beaucoup de temps, mais enfin, on a le temps, bien sûr. On peut rêver aussi un petit peu. Mais j'ai été choqué par l'absence d'enseignants dans ma visite. Alors bon, ils ont participé, ils ont cédé leur salle de classe, d'accord. Ça va
nos
pas.
Salles de classe.
Oui.
Ce sont des salles de classe qui appartiennent aux communes.
Oui, oui.
C'est vrai. D'accord.
Juste un petit rappel.
C'est vrai, monsieur Réveillé. Oui. C'est bien de le préciser, effectivement.
Ils ont dû quand même donner leur accord parce que c'était pas évident. C'est pas évident dans certaines écoles. Hein, voilà.
Jacques, vous sentez qu'il serait en demande un peu plus de relais, de transition, de dialogue finalement entre l'éducation populaire d'un côté et l'éducation nationale de l'autre. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de synergie.
Ce serait évidemment souhaitable, tout à fait souhaitable, parce que finalement on a une vision caricaturale dans les médias. Hein, c'est que le matin, c'est là qu'on fait du sérieux.
Dans les grands médias, Jacques.
Et puis à 16h, là, on se défoule un petit peu. Ce qui est lamentable parce que tout ça, ça devrait interférer. Hein, et là, ça me rappelle quand même quelques petites tentatives au lycée, où on a vécu des périodes formidables quand on a pu faire venir des comédiens, des professionnels, dans toutes les classes de seconde, un professionnel qui a non pas fait des discours, mais qui a montré un peu ce que ça pouvait être que la parole, le mouvement, le corps, enfin, des ouvertures, mais qui ont des conséquences formidables
sur les élèves, sur les enfants.
Mais bien entendu, bien entendu. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire. Alors, ça demande. Là, j'ai
ça
vu
demande
que,
du temps, Jacques.
Bien sûr, et ça demande aussi, j'ai vu que la loi met la concertation locale au cœur de la question éducative.
Absolument.
Alors, est-ce que vous avez vu beaucoup d'enseignants?
Peut-être un mot de Joël Aubert, et puis avant de redonner la parole.
Il y a aussi, vous le disiez tout à l'heure, il y a une vraie communication à faire sur cette dimension. Sur l'autre dimension, on n'est pas là dans la récré, on est dans une des dimensions de l'éducation, de la culture d'aujourd'hui. Et ça, il faut le revendiquer, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été revendiqué, ce qui donne un espace très grand, naturellement, à ceux qui sont toujours contre.
Monsieur Réveillé, c'est toujours un mot de conclusion, finalement, on arrive déjà au terme de notre émission, j'en suis désolé.
Ce qu'a dit Joël Aubert, moi j'avais envie de dire en conclusion, laissons nos enfants à l'abri de nos querelles d'adultes, par pitié. Aujourd'hui, les adultes qui sont politiques ne visent que les municipales. Et je rappellerai quand même qu'il y a actuellement chez les enseignants une course à l'échalote pour les élections professionnelles. Il est évident que quand il y a deux élections qui sont pendues au bout des semaines à venir, l'intérêt de l'enfant, j'ai l'impression qu'il est laissé un peu loin.
Donc on va essayer de prôner le dialogue entre tous. Et le mot de conclusion de Claude Touzeau pour la Franca.
Je voulais dire simplement, on n'en a pas parlé, mais la loi prévoit le projet éducatif de territoire, le PEDT. Et ça, c'est très important parce que ça va être l'espace. C'est déjà l'espace, puisqu'il faut l'écrire ensemble. C'est déjà l'espace de concertation très important. On peut regretter effectivement que la présence des enseignants soit réduite, mais moi je voudrais témoigner que dans un certain nombre de réunions que j'ai vues où on élaborait le PEDT, des enseignants étaient parfaitement présents, prenaient parfaitement leur place, étaient parfaitement conscients de l'enjeu. Donc je pense qu'il faut positiver là-dessus. Et puis bon, après, il y a... les postures, le reste.
Et puis voilà. Après, j'ai envie de dire, il faut laisser du temps au temps aussi. Absolument. Pour finalement cette réforme se mettre en place.
Mais
tout simplement.
Le PEDT est un dispositif fondamental de la réforme. C'est autour de ça qu'on pourra réaliser les progrès.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de la formation qui est remise en place pour les nouveaux enseignants, des recrutements importants, que ce soit des emplois d'enseignants ou des personnels de vie scolaire. Ou encore la refonte des programmes scolaires avec l'installation ce jour, là aujourd'hui, jeudi 10 octobre, du Conseil supérieur des programmes. Effectivement, ça c'est très important et je pense qu'on refera une émission évidemment pour en reparler tous ensemble. Hugo, tu voulais rajouter un mot
pour dire qu'il faudra également refaire une émission lorsqu'il sera question d'aborder la refonte des rythmes scolaires au collège et en lycée, qui est encore un problème différent. Alors
je crois qu'on invitera leur monde parce qu'il sera encore à l'avance sur ce domaine. En tout cas, on l'espère. Bernard Rivaillon, on vous remercie. Claude Touzeau pour les Franca, Jacques Brunet pour son expérience en tant qu'enseignant, et bien sûr Joël Aubert pour acquis.fr, Paul-Michel Borgne pour l'Écho des Collines et Hugo Ames pour le Courrier de Giron. Merci à tous, à très bientôt et bonne réforme des rythmes scolaires. Alors, au revoir.